Alors, un résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, vous savez, on a vu la fin du monde, là, le 21 décembre 2012. C'est déjà de l'histoire ancienne. Mais, en tout cas, on voit bien que le monde a besoin de quelque chose qui est au-dessus de lui. Il a besoin d'être protégé, guidé, instruit. Notre monde et nous-mêmes avons besoin de la parole de Dieu. Alors, on avait passé quelque temps à voir que la parole de Dieu, la Bible que nous avons, eh bien, c'est Dieu qui parle un langage humain. Il parle dans une langue la même que la nôtre et on va pouvoir comprendre ce qu'il nous dit. Il parle par la nature qui est tout autour de nous. Il parle aussi dans notre conscience. Des fois, il parle dans des rêves, dans des songes. Mais il parle, dans le passé, il a parlé à des individus. On avait vu ça. Qu'il y a des personnes qui ont entendu la voix de Dieu, des choses très concrètes. Mais d'une façon générale, aujourd'hui, il parle par sa parole écrite, la Bible. C'est lui qui a donné l'exemple en écrivant sur des tablettes les 10 commandements. Les 10 commandements, la parole écrite qui s'est constituée au fil du siècle, notre Bible, hein, on avait vu les avantages que ça présentait. Ben, on pouvait la conserver, la transmettre, la dupliquer, l'étudier, l'avoir toujours avec soi, toujours à notre disposition pour voir si on est juste ce qu'on pensait ou faux. Ça avait de nombreux avantages d'avoir une parole de Dieu écrite en langage qu'on comprend. Et il y a des personnes qui ont traduit de la Bible, ce qui est tout à fait agréé par Dieu, puisque les apôtres ont utilisé les traductions grecques de l'Ancien Testament. On avait vu qu'elle était fiable. Hein. Si on prend le Nouveau Testament, c'est les paroles et l'enseignement de Jésus, que ce soit les évangiles, que ce soit les épîtres, tout vient de Jésus-Christ. C'était un événement historique. La résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, à un instant précis, quand les temps furent accomplis. Hein. Christ est venu. Par l'intermédiaire d'une femme et sous la loi. Donc, il est venu pour son peuple, il est venu pour le monde entier. Et on avait vu les témoignages que la parole de Dieu était juste. Pourquoi? Parce que il avait fait des miracles qui avaient témoigné de cela. Dieu avait parlé. Il y avait des hommes qui avaient attesté, oui, vraiment, les apôtres, ils ont reconnu en lui le Fils de Dieu, le Christ. Il y avait des prophéties qui étaient accomplies et c'est ce que lui-même aussi a déclaré. Donc la parole de Dieu est fiable. Les apôtres ont fondé, ont écrit les épîtres, etc. Ils ont scellé par écrit tout l'enseignement de Jésus. C'était nécessaire pour instruire les disciples, pour lutter contre les faux docteurs, les faux prophètes de toute espèce, et pour remplir cette grande mission que Dieu avait donnée à ses apôtres de parler de la bonne nouvelle dans le monde entier. Et donc, le canon s'est constitué hein, pour fixer la doctrine, et on a vu qu'on avait un texte qui était très fiable. Et donc, que la parole de Dieu était réellement pour nous aujourd'hui. C'était une autre partie qu'on a vue. On a vu que c'était une nourriture, une puissance de Dieu, que c'était quelque chose qui allait nous instruire, une sorte de pédagogue avec des exemples pour nous instruire, pour nous fortifier, pour nous faire grandir. Comme une école, on allait trouver à travers la parole de Dieu. C'était une source de consolation également. Lorsqu'on est triste, lorsqu'on est désespéré, la parole de Dieu est là pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous exhorter, on dit ça, c'est-à-dire nous booster, hein, on dirait aujourd'hui, pour nous donner la pêche, pour nous dire, allez, va de l'avant. La parole de Dieu fait tout cela. Mais c'est aussi une loi, c'est là où on va trouver les lois. Et pour nous aujourd'hui, essentiellement les lois morales de Dieu, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, où est le bien, où est le mal, pour nous arriver à nous y retrouver, il y a des choses qui sont agréables à Dieu que l'on fait, il y a des choses que Dieu ne veut pas que l'on fasse. Et il a donné des règles morales parce que le péché est dans notre cœur et nous avons besoin de prendre conscience de cela. Et la loi de Dieu est là pour nous faire prendre conscience du péché dans notre cœur. Mais cela s'accompagne aussi, cette parole de Dieu, du message de la bonne nouvelle, l'évangile. Hein? Et également, on a vu, donc ça c'était la dernière fois, que la Bible était aussi une prophétie. C'est-à-dire, c'est à travers la lecture de la Bible qu'on va réellement connaître qui on est, et pourquoi on est sur la terre, et où est-ce qu'on va, et quelle est notre destinée. On avait vu tout ça. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre pour terminer et pour sceller tout ça. Et Dieu voulant, la prochaine fois, on commencera enfin à ouvrir cette parole de Dieu et voir ce qu'il y a dedans. La Bible utilise ce qu'on appelle des métaphores. Alors, qui sait ce que c'est qu'une métaphore? Alors, vous n'êtes pas fort en français comme moi. Alors, moi, je prends le dictionnaire. Une métaphore est une comparaison, une image. C'est une comparaison qui utilise les traits d'une personne ou d'un objet pour caractériser une autre. Alors, par exemple, on va voir maintenant quelques métaphores de la parole de Dieu et vous allez comprendre tout de suite. On a dit que la parole de Dieu était une nourriture. Si je commence ce verset et je vous dis « L'homme ne vivra pas de pain seulement », vous rajoutez « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et donc, c'est le premier enseignement, une des premières métaphores qu'on trouve, on la trouve dans l'Ancien Testament. Jésus a cité le livre de Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lui-même a dit « Je suis le pain de vie ». Alors, on a là une métaphore, on a un objet que l'on consomme tous les jours. Et c'était le pain, c'est la nourriture. Et quand on prend son pain, quand on prend cette nourriture, Dieu veut qu'on se souvienne qu'on a besoin de sa parole tous les jours, comme on a besoin de nourriture. Alors, je n'ai pas amené de la nourriture ce matin, j'ai amené une note de course. Hein? Alors, on va faire passer la note de course. Et puis, quand vous faites les courses, quand vous préparez la cuisine, là, ce qu'ils savent faire, moi, je ne sais pas faire beaucoup. Quand vous prenez ces aliments, souvenez-vous que la parole de Dieu est une nourriture. Alors, on va faire circuler le petit papier. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'éplucher toute la liste. Hein. La parole de Dieu est une nourriture. Alors, si quelqu'un veut chercher le psaume 119-105, qu'est-ce qu'on trouve qui veut lire le psaume 119-105? Il y a une autre métaphore qui est bien connue. Le premier qui a trouvé le lit. Psaume 119, verset 105.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On trouve des fouettes lampes maintenant. Hein? Ça éclaire la nuit et tout. Qui c'est qui a peur la nuit? Je lève le doigt, je dis non. Ouais, Mathieu, ouais. Les courageux, ils avouent leur peur. C'est bien. Hein? Ah ben, quand on a une lampe, tout va mieux. Hein? On a des lampes maintenant là, qui sont chouettes. Elles sont rechargeables. C'est super. Et la parole de Dieu est une lampe. Alors, chaque fois qu'on utilise une lampe, on peut se souvenir que cette Bible que nous avons, c'est quelque chose qui va nous éclairer quand on est dans l'obscurité. Bon, dans l'obscurité, dans le noir, quand on est à la cave, pour aller voir s'il y a des rats, c'est vrai qu'il vaut mieux une lampe comme ça. Mais quand on est dans la nuit, quand on est dans le trouble, quand on ne sait plus où on va dans nos vies, quand on ne sait plus ce qui se passe, ah ben, c'est bien d'avoir la parole de Dieu. Et chaque fois que nous avons une lampe, ah ben, souvenons-nous que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour savoir nous diriger, on l'a chanté tout à l'heure, quand on a perdu son chemin, quand on ne sait plus où on en est dans sa vie, la parole de Dieu est là pour nous dire pas à pas, une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds, qui va nous permettre de poser les pieds sur le sol ferme et de pouvoir avancer. Alors, une autre métaphore, Jérémie chapitre 1, verset 11. Qui c'est qui veut le trouver celui-là? Jérémie chapitre 1, verset 11. Allez, on va laisser les enfants nous lire Jérémie chapitre 1, verset 1. Pierre, tu as trouvé ? Ah, mais c'est là, on les a trouvés. Ok, allez Pierre, à forte voix, on t'entend.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Voilà. Dieu montre à Jérémie, son prophète, une branche d'amandier. Et il dit après, tu as bien vu une branche d'amandier, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, qu'est-ce que c'était que pouvait comprendre Jérémie en voyant cette branche d'amandier ? Alors, le mot hébreu amandier, hein, ça signifie attentif, vigilant. Et l'amandier, on n'en a pas beaucoup, moi je n'en ai jamais vu, dans nos pays ici. Ça a la particularité de fleurir très très tôt. Ça fait des fleurs blanches et c'est le premier des arbres fruitiers qu'il y avait en Palestine qui fleurissait. Et qui, ça doit toujours être le cas. Donc, quand on voit des fleurs d'amandier, eh bien, on sait que voilà, l'arbre, l'amandier veille. Et il annonce le printemps. Le printemps arrive. Junior m'a posé la question tout à l'heure, parce qu'il y a deux semaines, j'avais dit, ouais, c'est bon, le printemps est là. Eh bien, on a eu un coup de froid, de la neige, là, il y a deux semaines, et on n'a pas pu venir, beaucoup n'ont même pas pu venir au culte, à cause du mauvais temps, des intempéries. Eh bien, là, je me suis dit, t'as dit une bêtise, hein. Junior, il ne va plus faire confiance dans tes pronostics de la météo. Et il m'a reposé la question aujourd'hui. Alors, l'hiver, c'est fini ? Lui, il aime bien la neige. Et je lui ai dit, je crois que, voilà ce que j'ai trouvé dans le jardin. Les premières fleurs de notre jardin qui sont sorties. Alors là, je peux dire, oui, le printemps arrive. Ces fleurs nous annoncent que le printemps arrive. Les premières fleurs, je les ai vues hier, elles sont sorties hier, tout juste dans le jardin. Alors, après l'enseignement et l'information prise, il s'agit de Violette de Toulouse. Et en voyant ces violettes et en voyant le printemps qui revient, on peut avoir l'assurance de se souvenir, oui, la parole de Dieu, elle va s'accomplir. Les promesses de Dieu vont s'accomplir, hein, aussi certainement que les fleurs reviennent chaque printemps et annoncent le printemps. Ces nouvelles fleurs qui annoncent que Dieu veille sur sa parole et va l'exécuter. Et donc, toutes ces prophéties qu'il y a dans la Bible, on peut être sûr qu'elles vont s'accomplir. La branche d'amandier. Alors, une autre métaphore, si vous tournez quelques pages, si vous êtes toujours dans Jérémie, on va aller au verset 23, au chapitre 23, le verset 29. On va gagner un peu de temps, on va en sauter une. Chapitre 23, verset 29. Voilà, on va en avoir deux d'un coup. Qui est-ce qui a trouvé le chapitre 23 de Jérémie, le verset 29 ? Ouais, allez.
La parole n'est-elle pas pareille au feu, demande l'Éternel ? N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ?
Voilà. Deux autres métaphores de la parole de Dieu, un feu. Ah. Quelles sont les propriétés du feu ? Qui c'est qui a déjà vu un feu ? Tout le monde ? Un beau feu là. Ça fait quoi ? Ça réchauffe, hein ? Ça réchauffe, ça a un côté fascinant aussi le feu. Moïse avait été attiré dans le désert par un buisson qui se consumait, qui brûlait, il y avait un feu, et puis le feu ne s'arrêtait pas, c'était un buisson qui brûlait en permanence. Et il a été attiré vers ce buisson, et là, Dieu lui a parlé. Donc le feu, un feu qui également chauffe tellement que ça fait fondre les mauvaises choses. Hein. C'est comme ça qu'on purifie l'or, qu'on purifie l'argent, en le faisant passer par le feu. Donc, ma parole n'est-elle pas un feu? Alors, ce matin, je ne ferai pas circuler de feu parmi vous. Hein. Jean-David me l'interdirait formellement. Mais par contre, vous avez vu, après, il est question de quoi d'autre?
Un marteau.
Un marteau. Ah, un marteau. Alors, à quoi ça sert les marteaux? Ici, ce n'est pas le marteau pour se taper sur les doigts, ni pour taper sur la tête de son voisin. C'est le marteau pour qui va briser le roc. Alors, moi, j'ai un beau marteau à la maison. Alors, il est transportable. Alors, je m'en suis servi, moi, pour casser des choses dans la maison, pour faire les travaux. Mais on peut s'en servir pour briser les rochers. Et alors, ces rochers, c'est l'image de quoi? C'est une autre métaphore que prend la parole de Dieu. Jésus l'a utilisé. Hein, les pierres, c'est un petit peu notre cœur, des fois, qui est dur comme une pierre. Et donc la parole de Dieu, elle va être comme un marteau qui va casser cette enveloppe de pierre qui rend notre cœur, notre intérieur tout dur. Hein. Vous connaissez, on dit des fois de certains gens, oh, c'est une personne qui est dure. Même à l'école, dans les cours de récréation, on trouve des enfants qui peuvent être durs, des camarades qui peuvent être durs, et nous-mêmes. Il y a des choses, des fois, sur lesquelles on va avoir beaucoup de résistance. Hein. Vous trouverez des exemples. Hein. Ben, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire à la maison. Là, on est dur, on ne peut pas les faire, on ne les fait pas. Maman dit, mais moi, je ne fais pas. Ou j'y vais à reculons. Je fais le dur. Et quand on est grand, ça ne change pas. Des fois, même, ça empire. On devient parfois dur. Et la parole de Dieu va être là comme un marteau qui va taper et briser notre cœur qui est si dur. Alors si vous voyez un gros marteau, un jour quelqu'un qui manie un gros marteau, vous pouvez vous souvenir, oui, la parole de Dieu, Dieu va arriver à briser avec sa parole ce qui est dur en moi. C'est pas fait pour taper sur son voisin, donc avec des versets de la Bible, on prend et on tape comme ça sur les gens. Non, la parole de Dieu, elle s'adresse au caillou qui est dans nous-mêmes, dans notre cœur à nous, le gros caillou qu'on porte avec soi, et qui a toujours tendance à, des fois, à grossir, à devenir tellement dur. Alors, la parole de Dieu, un feu, un marteau. Notre beau passage, alors là, il faut changer de livre, il n'est pas dans l'ordre, là. Ésaïe 55, il faut reculer. Un autre très beau passage. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Alors, Lise, c'est toi qui nous le lis?
Ouais,
tu as trouvé? Tu peux nous le lire? 10 et 11, 55, 10 et 11.
Comme la pluie et la neige descendant des cieux et ne retournant pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui le mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté.
Voilà, beau passage, encourageant, hein? Donc, comme la pluie et la neige qui tombent, et quand la pluie tombe, ben les plantes sont contentes parce qu'elles vont recevoir cette humidité qui va leur permettre, avec le soleil, de vivre, de se développer, de croître. Et pour celui qui sème toute cette semence, c'est formidable parce qu'il va y avoir de la moisson. qu'il y en a parmi nous qui ont la chance d'avoir un petit jardin, ils mettent des fruits, des légumes, eh bien, le printemps, on attend la pluie. On attend la pluie pour que tout ça puisse germer, pour que tout ça puisse semer, pour que les mottes de la terre se ramollissent, pour qu'on puisse la retourner. Et ainsi, la parole de Dieu, Dieu envoie sa parole sur la terre. Pour nous rafraîchir, pour nous redonner de la force, pour nous refaire, redonner de la quantité sec, tout va reverdir hein, suite à la parole de Dieu. Et donc, elle ne revient pas à lui sans effet. Vous savez que l'eau s'évapore et remonte au ciel et puis elle redescend, etc. Il y a tout un cycle de l'eau. Et il y a également cette belle image du cycle de l'eau qui coule, qui remonte, et qui s'évapore, qui redescend, les nuages repassent, etc. Ça tourne tout le temps. Et il y a cette image de la parole de Dieu qui envoie sa parole sur la terre et sa parole fait exactement ce que Dieu a prévu. Et ici, on voit qu'elle fait du bien. Elle fait du bien. Une autre, donc quand il pleut, même quand il y a la neige, des fois on aime la neige, des fois on n'aime pas la neige, mais on peut se souvenir de la parole de Dieu, que Dieu envoie sa parole et qu'elle fait exactement tout ce qu'il a prévu. La parole de Dieu fait tout ce que Dieu a prévu. Donc là, je n'ai pas amené de parapluie, j'aurais pu vous faire passer un parapluie, je n'ai pas pensé, pour vous faire souvenir quand je sors le parapluie, mais voilà, c'est Dieu qui intervient dans ma vie, hein, avec sa parole, pour faire du bien, pour arroser, pour que ça pousse, pour qu'il y ait du fruit. La dernière métaphore, on va la prendre dans, il y en a trois, mais on va lire qu'une, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Et on va terminer avec cette dernière métaphore. Ouais, bien, je vois que tu l'as trouvé.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu peux aller chercher, allez, 4.12, Hébreux 4.12, et nous le lire après en suivant, pendant que je cause. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Là, on, la parole de Dieu, là, est comparée à une épée. Bon, maintenant, on n'utilise pas beaucoup les épées. Mais vous avez vu les films, là, dans les films fantastiques, tout ça, tous ces films qui traitent ou des histoires de l'Antiquité ou de Moyen-Âge, la question des épées, c'est vachement important. Avec les épées, on fait plein de choses, les épées bien aiguisées. Qu'est-ce qu'on lit dans Hébreux 4, 12 ?
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Voilà, la parole de Dieu, une épée qui va pouvoir pénétrer à l'intérieur de notre cœur, aller voir les choses que nous-mêmes on ne discerne pas en nous. Eh bien, l'épée est tellement pointue, tellement affinée, qu'elle va pouvoir faire un travail de chirurgien, en quelque sorte, dans notre cœur, dans notre ce qu'on est, dans notre âme, dans notre nous-mêmes là. Et également, ça c'est la deuxième image, et la première image, c'est l'image de la guerrière, hein, où on a l'épée, et l'épée c'est une arme qui est offensive, avec laquelle on va pouvoir aller de l'avant et pour combattre notre ennemi. Alors, qui c'est notre ennemi? Dans le passage qu'a lu tout à l'heure Jean, ben, il ne s'agit pas de nos confrères, de ceux qui sont autour de nous, il ne s'agit pas de ceux qu'on n'aime pas. Nos ennemis, ben, c'est les puissances, les esprits mauvais dans les lieux célestes, il appelle ça, hein, tous les puissances de Satan et de tout l'adversaire de l'espèce humaine. Hein. Et donc la parole de Dieu est là pour se défendre. On a vu un petit peu comment Jésus l'utilisait quand il a été tenté par Satan, comment il a répondu à Satan et comment il a résisté à la tentation uniquement en citant la parole de Dieu. Donc aussi une épée hein, qui pour nous protéger de notre adversaire, de Satan, quand Satan vient te troubler, eh bien, on peut puiser dans la parole de Dieu des versets qui vont nous permettre de lui résister, de résister à la tentation quand il vient nous tenter pour nous faire faire des choses mauvaises, parce que c'est le grand spécialiste, il veut nous faire trébucher, c'est celui qui met les bâtons dans les roues, là, qui c'est qui a fait du vélo, hein, on pédale tout ça, et puis il y a quelqu'un là qui vous passe là, tchac, vous envoie un truc dans les rayons, alors la roue se bloque immédiatement, vous faites la culbute, et on s'étale de tout son long par terre, et on se fait très, très, très mal. Et c'est ce que veut faire l'adversaire, c'est ce que veut faire Satan. Surtout quand on veut commence à pédaler et qu'on prend de la vitesse, c'est là que c'est intéressant pour lui de nous faire tomber. Et donc, avec la parole de Dieu, eh bien, on va pouvoir se défendre, on va pouvoir faire partir cette tentation. Ça va être notre secours. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Quelques métaphores, des choses concrètes. Bon, on n'a pas d'épée, mais on ne manie pas des épées tous les jours dans notre existence. Je pense que les gens de l'époque ne devaient pas manier des épées non plus tout le temps. Hein. Mais on sait ce que c'est. Et on peut se rendre compte, en voyant des épées, ce que est la parole de Dieu pour nous. Voilà, alors on va prier et on va rechanter notre chant. Et après, je vous libère. Notre Père Céleste, merci pour ta parole. J'ai beaucoup parlé, Seigneur, mais c'est les choses maintenant sont à toi. Et je te prie, Seigneur, de nous rendre attachés à ta parole. Que nous puissions la prendre en considération, la prendre au sérieux. Que nous puissions aimer la lire, avoir de l'appétit pour ce qui concerne ta parole, qui est une nourriture pour nous. On a vu tout ce qu'elle nous apporte. On a vu comment elle est précieuse, tu nous l'as donnée pour nous. Seigneur, aide-nous à nous l'approprier, à faire l'usage que tu as prévu. Et que, Seigneur, nos vies puissent être transformées par cette parole. Et que nos relations les uns avec les autres puissent être transformées. Que notre relation avec toi puisse être transformée également. Merci, Seigneur, que tout cela puisse être agréable. Dans le nom de Jésus, nous te demandons tout ceci pour nous-mêmes, pour notre Église, pour tous nos frères et sœurs et pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Amen.